nous, Seigneur. Instruis-nous, emmène-nous dans ta parole, Seigneur, mon Dieu. Et communique-nous ta pensée. Et fais que nous devenions meilleurs chaque jour que nous recevons ta parole. Il est dit dans Jean 15, déjà vous êtes purs, nets à cause de la parole que je vous ai annoncée. Seigneur, merci pour cette parole qui pénètre nos cœurs. Fais de nous des disciples accomplis et qui ressemblent au Maître. Fais de nous des modèles dans ce temps où il y a très peu de modèles parmi les enfants de Dieu, parmi les leaders, parmi les serviteurs de Dieu. Que nous puissions marquer la différence en ayant tes empreintes, tes marques. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de nos vies au nom de Jésus. D'avoir ainsi prié. Amen. Je parlerai ce soir de 10 choses très importantes pour nous perfectionner. Alors, je vous invite à prendre avec moi 3 textes rapidement. Le premier se trouve dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4. Je reviens souvent sur ce texte de 1 Timothée avec les ouvriers. Paul exhorte son fils dans la foi. 1 Timothée chapitre 4, le verset 7 au verset 16, il est dit « Repousse donc les contes profanes des vieilles femmes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Elle a la promesse de la vie présente et celle et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous, afin que, il y a un but, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement et persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ensuite tu sauveras ceux qui t'écoutent. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Nous lisons le verset 12 à 13. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Et ils les ramassèrent donc, et remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Dernier texte, Proverbes chapitre 22. Proverbes chapitre 22. Le verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois et il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Amen. Je disais que ce soir, j'aimerais entretenir avec nous sur les 10 choses qui sont importantes pour nous perfectionner dans notre vie spirituelle, dans notre foi, dans la vie même en général. 10 choses. Il y en a certainement beaucoup, mais j'ai juste retenu ces 10 choses qui vont nous aider. Amen. Dans notre marche. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas facile. La vie chrétienne est remplie d'embûches. La vie chrétienne est remplie d'épreuves, des souffrances, des difficultés. Et nous pouvons aujourd'hui faire le vœu, accepter Jésus-Christ dans notre vie et rencontrer tant d'obstacles qui vont nous empêcher forcément d'avancer, d'évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est que en tant qu'enfants de Dieu, nous devons non seulement être enfants de Dieu, mais chercher plutôt à être un disciple de Jésus. Amen. Le Seigneur, avant de partir au ciel, après sa résurrection, a donné un ordre à ses apôtres. On connaît ce texte dans le livre de Matthieu, au chapitre 28. Il va leur dire, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est dans Marc. Et plutôt dans Matthieu, il dira, allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le grand problème aujourd'hui que nous avons dans la chrétienté, c'est que nous avons beaucoup de, entre guillemets, de fidèles, mais on a très peu de disciples, très peu de personnes qui essayent de ressembler à Jésus et très peu de personnes qui font des progrès, qui essayent de marcher comme le Seigneur le veut. Et nous voyons dans le texte que nous avons vu, dans 1 Timothée chapitre 4, c'est Paul qui s'adresse à son fils légitime, Paul, Timothée, et il lui donne des conseils. Et si vous allez dans 2 Timothée 2, il dit à Timothée, on peut le prendre, 2 Timothée chapitre 2 rapidement, il lui dit quelque chose, une parole que j'aime beaucoup. Il dit, ce que tu as entendu de moi, reçu de moi, en présence de beaucoup de témoins, à partir du premier verset, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles et qui soient aussi capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et le verset 3, il dit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Car il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Amen. Paul parle de la souffrance à son fils. Il parle du prix à payer en tant que disciple. Et si on n'a pas cette pensée, cette vision des choses, ce qui est sûr, c'est que notre vie chrétienne n'ira pas loin. Parce qu'il arrivera le moment où le vent va souffler, il y aura des difficultés, des embûches, on risquera d'abandonner. Et même quand on est ministre de Dieu, on peut abandonner parce que on n'a pas appris à être disciple, à souffrir avec Christ. Alors, ce qui va m'intéresser le plus ici, c'est les conseils. Et parmi ces conseils, je relevais 10 choses qui vont aider nous qui sommes disciples de Jésus à faire des progrès. Parce que vers la fin, il dit, dans 1 Timothée 4, il dit, « Occupe-toi, le verset 15, de ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. » C'est-à-dire afin de progresser, afin de réussir, afin d'aller loin, afin de grandir. Il faut s'occuper de ces choses. Autrement dit, si on ne fait pas attention, on ne fera pas de progrès. On pourra rester à l'église année après année sans faire de progrès. La croissance ne dépend pas du nombre d'années que tu fais dans l'église. Ça ne dépend pas du nombre de serviteurs que tu connais, mais ça dépend de la manière dont tu appliques la parole de Dieu. Tu mets cette parole en pratique. Or, la difficulté, c'est que nous entendons beaucoup la parole de Dieu, mais peut-être que nous ne la mettons pas suffisamment en pratique. Et voilà comment il n'y a pas beaucoup de progrès. Alors, la première chose que vous pouvez noter, première chose, que nos progrès soient évidents. Un, il faut s'éloigner de la distraction. Repousse les contes profanes des vieilles femmes. Il y avait des vieilles femmes qui ne passaient que leur temps à parler, à papoter, à murmurer. Qu'est-ce que l'Église aujourd'hui est remplie de gens qui murmurent, qui ne font que parler, raconter des histoires. On a un culte magnifique. Une fois que le culte finit, au lieu de parler de la parole de Dieu, de dire, ah, en tout cas, certainement cette parole-là, c'était pour moi. J'ai appris quelque chose. Et souvent quand on sort, et t'as vu la sœur là? T'as vu comment elle était coiffée? T'as vu le frère là? T'as vu comment il était? Distraction. Et aujourd'hui, le diable a réussi et est en train de réussir de faire tomber beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens dans la distraction. Ça, c'est la première chose à éviter. Alléluia. Notez ça très bien. Aujourd'hui, c'est un message simple. Il n'y a pas de révélation compliquée. Évitez la distraction. Il y a un an et demi, je crois, j'ai donné un message, je crois, un mardi. Le thème, c'était ça, éviter la distraction. Et je me rends de plus en plus compte que les chrétiens sont distraits. C'est quoi la distraction? C'est lorsqu'on n'est pas attentif, lorsqu'on manque d'attention, lorsqu'on est dans les divertissements, lorsqu'on ne se focalise pas sur le but, sur l'objectif. Quel est ton but en tant qu'enfant de Dieu? Paul dit dans Philippiens chapitre 3, il vante un peu ce qu'il était avant de rencontrer Jésus. Mais par la suite, il dira, les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de la connaissance de Jésus-Christ. Et je regarde toutes choses comme de la boue. Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Et regardez les instructions que le Seigneur donnait à Josué. Il dira, toi Josué, fortifie-toi. Si tu veux faire des progrès, si tu veux réussir, ne détourne ton regard ni à gauche ni à droite. En réalité, évite la distraction. Parce qu'en regardant à gauche et à droite, tu ne seras pas concentré. Tu seras distrait. Et ça, c'est le problème des enfants de Dieu. C'est notre problème. Le diable est en train de travailler. Il travaille pour mettre la distraction dans l'église. La distraction parmi les enfants de Dieu. Ce qui fait qu'on ne regarde pas ce qu'on a reçu de Dieu. On ne regarde pas les talents qu'on a. On ne regarde pas les dons qu'on a. On ne regarde pas le travail à faire. Mais on se focalise sur peut-être des détails qui ne sont pas édifiants. Et on passe le temps, on passe à côté de l'essentiel. Ça, c'est la première chose. Tu ne te perfectionneras jamais tant que tu seras dans la distraction. Combien de choses aujourd'hui prennent la place dans notre vie? Quand je regarde beaucoup de chrétiens, je suis souvent un peu branché, on rend visite aussi à certaines personnes. On voit combien les chrétiens sont plongés dans la télévision. Distraction. Combien de temps passons-nous devant Internet? Distraction. Et combien de temps as-tu pour prier? Tu as très peu de temps pour prier. Tu as très peu de temps pour méditer la Bible. Tu as très peu de temps pour chercher la face de Dieu. Tu n'as jamais, pratiquement jamais, de temps de retraite, même personnel. Tu n'as pas le temps d'être en communion avec d'autres frères pour prier, avoir des projets d'aller peut-être évangéliser. Tout est distraction. N'oublions pas que nous vivons dans un monde de distraction. On fait tout pour vous distraire. Vous pouvez ne pas aller au travail, vous restez à la maison du matin au soir. Vous serez servi. Hein. Avec la télévision, vous serez servi. Programme sur programme, film, émission, dessin animé, information. Et la journée peut passer comme ça. Et malheureusement, aujourd'hui même les chrétiens tombent dans la distraction. Ça, c'est le premier point. Fuir la distraction. Quelles sont les choses qui volent ton temps? Identifie-les. Amen. J'aime un texte dans le livre de Psaume. Regardez avec moi rapidement. Psaume au chapitre 90. Une prière de Moïse au verset 12. On peut même prendre la partie verset 10. Il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour le plus robuste, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite. Et nous envolons. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Alléluia. Et dans Éphésiens 5, il dit, rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Et aujourd'hui, on n'a plus la notion du temps. C'est-à-dire qu'on passe le temps dans la distraction. On est occupé à autre chose que les choses importantes, autre chose que Dieu, autre chose que construire même notre propre vie. Le temps que tu peux passer dans la distraction, ce temps-là, tu peux réfléchir sur ta vie, tu peux réfléchir sur tes projets, tu peux réfléchir sur ton avenir, tu peux réfléchir sur ce que tu peux faire, sur ton appel, ton ministère, ton foyer, ta famille. Mais voilà comment le diable arrive à te voler cela. La distraction. Notez ça très bien. Et pour éviter de tomber dans la distraction, bien aimé, il faut avoir le discernement. Et regardez ce que le Seigneur dira aux pharisiens. Dans Matthieu 16, il leur dit quelque chose quand même de frappant. Matthieu 16, à partir du premier verset jusqu'au verset 3, il dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Regardez ce qu'il dit. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Ils étaient distraits. Le Messie était là. Celui dont les Écritures avaient annoncé la venue était arrivé. Et il y avait des choses qui se passaient sous leurs yeux. Mais ils arrivent à discerner l'aspect du ciel. Mais les signes des temps, les choses spirituelles, ils sont aveugles, distraits, et ils passent à côté. La distraction. Dans la distraction, on peut être là dans l'euphorie. Ah, Dieu nous aide, Dieu nous bénit. Nous avons peut-être une bonne église. Nous avons des bons frères, ceci, cela. Mais sans saisir le pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne ces enseignements? Pourquoi est-ce que Dieu nous visite? Pourquoi est-ce que Dieu nous donne l'onction? Quelqu'un m'a dit, oui, pasteur, tu n'es plus comme avant, tu ne pries plus pour nous tout le temps où on va tomber. J'ai dit, mais oui, on prie pour vous, vous tombez, vous vous relevez. Et après, vous faites quoi? Et demain, on vient encore, on prie pour vous, vous allez tomber, vous relevez. Et après quoi? La distraction. On ne saisit plus le sens des choses, le but des choses. La Bible dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Le but, ce n'est pas de venir, de tomber, de te relever, et puis attendre demain, venir. Non! Et quand on est dans la distraction, on ne saura pas quel est mon appel, à quoi Dieu m'appelle, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Alléluia. Quand Dieu vous appelle, il attend forcément quelque chose de vous. Ils savaient discerner l'aspect du ciel, mais ils ne pouvaient pas discerner les signes des temps. Pourquoi? Ils étaient distraits. Et regardez dans 1 Chronique, 1 Chronique chapitre 12. Le verset 32. Là, la Bible nous parle des fils d'Issacar. Allons-y un peu vite à cause du temps. La Bible dit que les fils d'Issacar qui savaient discerner le temps pour savoir ce que devait faire Israël. Je m'arrête là. Les fils d'Issacar, la Bible dit qu'ils savaient discerner le temps. Et en discernant le temps, ils pouvaient savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Quand tu n'arrives pas à discerner les choses, tu seras dans la distraction. Tu ne sauras pas quoi faire. Tu ne sauras pas quel est le travail que Dieu veut que tu puisses faire. Tu ne prendras pas ta vie au sérieux. Tu ne prendras pas ton ministère au sérieux. Et par conséquent, tu n'avanceras pas. Tu ne feras pas de progrès. 5 ans de vie chrétienne, 5 ans on fait du surplace. 10 ans de ministère, 10 ans on fait du surplace. Et moi, dans la manière dont je conçois les choses de Dieu, c'est inconcevable que au bout de 2 mois, je n'évolue pas. Même 1 mois, même 1 jour. Je crois qu'un chrétien doit grandir tous les jours. Alléluia. Je crois que les progrès doivent être faits quotidiennement. Amen. Bien-aimés, discernons le temps. Discernons les choses pour éviter la distraction.
La Bible nous parle de l'évangile qui est la bonne nouvelle. Nous sommes entourés de mauvaises nouvelles. Quand vous allumez la télé, que de mauvaises nouvelles. Tout est fait pour vous décourager. Mais très peu de personnes prennent le temps de puiser pour savoir qu'est-ce que Dieu dit afin d'obéir à ce que Dieu attend d'eux. Deuxième chose, évitez le gaspillage. Deuxième chose importante, là nous avons le texte de Jean. Jésus-Christ venait de faire un miracle. Il a nourri plusieurs personnes avec du pain et du poisson. Et à ma grande surprise, après que tout le monde eut mangé, il restait encore un peu de pain. Il restait du poisson. Regardez ce que Jésus va dire. Jésus va dire, ramassez ces choses. On a lu, non? Est-ce qu'on peut le relire? Il dit, ramassez, afin que rien ne se perde. Le gaspillage. Jean 6. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Afin que rien ne se perde. Afin qu'il n'y ait pas de gaspillage. Ici, le Seigneur nous appelle à une bonne gestion. Gaspiller, c'est quoi? C'est dépenser. Consommer sans discernement. Gaspiller, c'est utiliser de manière désordonnée quelque chose qu'on vous a donné. Et bien aimé, je me suis rendu compte, avec aussi les entretiens que nous avons, que les chrétiens, nous avons tendance à gaspiller les choses que Dieu nous donne. Gaspiller même l'argent que Dieu nous donne. Toi qui dis c'est mon argent, je te dis que ce n'est pas ton argent. Tu es gestionnaire de ce que Dieu te donne. Amen ou pas amen? Le gaspillage. Tout ce qui saute à tes yeux, tu achètes. Gaspillage. Tu n'as pas le temps de semer, de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais tu as le temps d'acheter des habits même au solde que tu ne mettras jamais à cause de la convoitise des yeux. Gaspillage. Gaspillage de la nourriture. Gaspillage. Dis à ton ami, gaspillage. Est-ce qu'il y a des gens qui gaspillent trop ici? Il y en a certainement. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous puissions que nous puissions faire une bonne gestion de ce qu'il nous donne. Dieu te bénit. Dieu te donne un mariage. Ne gaspille pas ce mariage. Dieu te donne un travail. Ne détruis pas ce travail. Dieu te donne une œuvre à gérer. Ne gaspille pas. Combien de leaders aussi qui maltraitent les fidèles et par la suite les fidèles s'en vont. Mais ils gaspillent. Dieu leur demandera des comptes. Alléluia. Très souvent, on n'avance pas parce qu'on pense que, vous savez que ce que, là où Dieu veut vous amener, enfin, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, il y a des richesses que Dieu a mis en nous. C'est à nous de les exploiter. Mais souvent, on pense que les richesses sont toujours en dehors de nous. Et on n'a pas le temps de regarder ce que Dieu nous a donné. Et on gaspille le temps. On gaspille l'énergie. On peut même gaspiller de l'argent. Alléluia. Je disais à un bien-aimé tout à l'heure, on travaille avec une équipe là, on vient d'arrêter parce qu'on a des talents, on a des dons, mais on a gaspillé le temps et l'argent ailleurs. C'est du gaspillage. Et Dieu nous demandera de compte. Et les progrès ne peuvent pas être évidents tant qu'on gaspille les choses. Alléluia. Retournons dans 1 Timothée. Je pris la décision de ne plus gaspiller. Alors je te conseille aussi, ne gaspille plus. Ne gaspille plus ton temps. Les Américains disent, time is money. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Alléluia. 1 Timothée 4. Nous gaspillons nos temps dans les futilités. Il a dit que, il paraît que tu as appris, est-ce que, au lieu de prier, et quand il faut prier, tu bailles. Ah, Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as gardé voilà, toute la journée. Nous te remettons cette nuit, nous chassons les sorciers. Parce que quand il s'agit de sorciers, il faut crier. Et puis, et tu dis, bon, je veux me rattraper le lendemain matin. Et le lendemain matin, pareil, tu ne pries plus. Et il y a des choses auxquelles tu n'es pas concentré. Et ton temps est volé, tu as gaspillé ton temps. Vous savez, vous pouvez perdre l'argent, vous pouvez le retrouver. Mais le temps, si vous le perdez, excusez-moi, vous ne reculez pas. L'âge ne recule pas. Qui peut me dire qu'avec le temps qui passe, il devient plus petit, plus jeune? Chaque jour, tu t'approches de ta mort. Alléluia. La raison pour laquelle ne gaspille pas ton temps, ne gaspille pas ton énergie pour rien. Ne gaspille pas ton énergie à faire des choses qui ne sont pas productives. Je veux qu'à chaque action que je pose, à chaque chose que je fais, puisse produire quelque chose. Je ne veux pas venir perdre mon temps ici et puis à la fin, il n'y a rien. Ah non, ça, ce n'est pas le Douglas. Hein. Moi, je dis avec Jésus, c'est donna-donna. Je te donne, tu me donnes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc toi, tu es là, tu viens seulement. Pourquoi tu es là? Je suis là. Pourquoi? Frère Richard, pourquoi tu viens? Ah non, tiens. Mais c'est mardi, il faut venir mardi. Le pasteur a dit, si tu ne viens pas mardi, tu ne peux pas servir. Tu n'as rien compris. Tu peux perdre ton temps comme ça. Il faut connaître le but. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Le gaspillage. On doit arrêter de gaspiller les choses. Gaspiller les dons que Dieu nous donne. Dieu te confie des richesses. Dieu te confie de l'argent. Qu'est-ce que tu en fais? Tu ne sèmes même pas dans l'œuvre de Dieu. Tu gaspilles. Et ça ne produit rien de bon au final. Parce que tout ce qui n'est pas fait pour Dieu, c'est fait pour l'autre. Il n'y a pas d'amen, hein? Troisième chose, c'est exercer à la piété. C'est exercer à la piété. Il dit l'exercice physique est utile à peu de choses. Verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice physique, corporel plutôt, est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie éternelle et de celle qui est, plutôt de la vie présente et de celle qui est à venir. Dans la piété, nous voyons la dévotion, cet attachement respectueux et fervent à Dieu. Nous voyons cette vie de moralité aussi dans la piété. La Bible dit qu'il faut s'exercer à la piété, il faut travailler, en gros, il faut travailler son caractère. Essayer de ressembler au Seigneur Jésus. Alléluia. Beaucoup ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui en fait la force. Combien de chrétiens vivent-ils dans les apparences? On veut montrer qu'on est saint, sainte, mais en réalité, c'est autre chose. Pas la piété. Amen. La piété est liée à la foi, parce que dans deux Pierre, Au chapitre 1er, regardez avec moi, 2 Pierre chapitre 1er. Pierre parle de la foi ici, à partir du verset 5, il dit, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la connaissance, et à la connaissance la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi la patience, et à la patience la piété. » Amen. « Et à la piété l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle l'amour. » Et la Bible nous demande de nous exercer. De Pierre chapitre 1er, le verset 3, le verset 5 au verset 8. Il faut travailler son caractère. En tant que chrétien, tu dois travailler ton caractère. Tu dois chercher à ressembler à Jésus. Alléluia. C'est une bonne chose de chercher la puissance de Dieu. Mais c'est encore mieux d'avoir le caractère de Christ. Vous savez, quand je lis j'essaie de lire un peu le ministère de Jésus, vous allez voir que Jésus-Christ a plus parlé du Saint-Esprit à la fin de son ministère à ses disciples. Il a d'abord pris le temps de leur communiquer, de leur inculquer là, c'est quoi être un vrai disciple. Or, nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui aiment la puissance, mais qui n'ont pas le caractère de Jésus. Vous ne trouvez pas la vie, l'image de Christ en eux. Et tu ne peux pas faire des progrès selon Dieu. Alléluia. Il faut qu'on ressemble au Seigneur. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme j'imite Christ. Pas imiter les dons, l'appel, le ministère, ça ne s'imite pas. Ça, on le reçoit de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut imiter? Le caractère de Christ dans la vie de Paul. Et ça se travaille. Regarde ton caractère, regarde ta vie. Regarde tes faiblesses, toi-même tu te connais. Tu dois faire un travail sur toi. Et ce qui est dommage, c'est de voir les chrétiens, et ils savent eux-mêmes qu'ils ont des défauts, mais ils ont des yeux ouverts sur les défauts des autres. Et ils oublient leurs défauts. Et Jésus les appelle des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils voient la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais ils ne voient pas la poutre. Toi-même, tu as un gros défaut, mais tu sais détecter les défauts des autres. Non. Fais un travail sur toi-même. Alléluia. Ne prêche pas pour les autres. Prêche ce que tu vis. Que cette parole te touche d'abord, te transforme d'abord toi-même. Parce que c'est facile de prendre la parole, de balancer pour les autres. Prenez, et toi? Non. Alléluia. Exerçons-nous à la piété. Travaillons notre moralité. Travaillons notre caractère. Soyons des gens lorsqu'on nous regarde. Vous savez, la Bible dit c'est à Antioche pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens, comme Christ. En réalité, ce n'est pas à toi de dire aux gens, je suis chrétien. Non, en réalité, c'est aux autres de dire, tu es différent. Hein. Et c'est aux païens, à ceux qui ne te connaissent pas, de te traiter de chrétien. Aujourd'hui, tout le monde, au nom de l'Évangile, au nom de la Bible, au nom du fait qu'ils sont membres d'une église, ce n'est pas parce que tu es membre des sept résurrections que tu es chrétien. Tu peux être un faux frère et une fausse sœur. D'ailleurs, ce n'est pas le fait d'être ici que tu vas être enlevé. Hein. Si tu ne ressembles pas à Jésus, tu restes. Hein. Regarde ton frère à gauche, à droite. Est-ce que tu vas rester? De toute façon, ce jour-là, je vais vérifier la liste. Qui sont ceux qui sont absents? Ceux qui ne sont pas là? Alléluia. Un pasteur a dit, je viendrai, je vais demander la permission pour venir vous faire un petit coucou. Ah, tu es resté? Alors Sylvie, tu vas rester? Qui va rester ici? Personne ne l'a dit, personne ne va rester. Mais que Jésus vienne maintenant, là on saura. Parce que tu peux nous tromper. Alléluia. La moralité. Aujourd'hui, il y a très peu de chrétiens qui ont une bonne moralité. Très peu de chrétiens sont honnêtes. Très peu de chrétiens respectent leurs paroles. Très peu de chrétiens respectent leurs engagements. Beaucoup de chrétiens sont escrocs. Non, mais si vous ne dites pas, mais c'est la vérité. Je ne prêche pas aux autres. Ce soir, je ne prêche pas pour vous faire plaisir. Hein. Alléluia. De toute façon, je ne vous ai jamais fait plaisir. Amen. Non, frère. La piété. Où est la piété? Où sont... La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Tu ne peux pas dire, moi je vis dans la piété et ça coule douce, tu n'as pas de problème. Non, quand tu veux marcher correctement avec le Seigneur, tu auras des problèmes. Tu seras persécuté. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus, c'est la Bible qui dit, on te persécutera. Je ne parle pas des souffrances liées au mauvais comportement. Parce qu'il y en a aussi qui se comportent mal, ils souffrent et puis disent, non, je suis persécuté. Non, tu as un sale caractère, il faut changer ça. Mais là, je parle de ceux-là qui sont corrects et qui veulent craindre Dieu. Et qui vivent dans la piété et qui dérangent. Forcément, ils sont persécutés. Exerce-toi à la piété. On ne peut pas faire des progrès tant qu'on n'est pas pieux, tant qu'on est malhonnête. On n'est pas sérieux. On ne respecte pas les engagements. Ça ne marche pas. Autre chose, quatrièmement, c'est ça. Devenir un modèle. Toujours un Timothée. Nous sommes dans un Timothée. C'est ça notre texte base. Être un modèle. Être une référence. Être un exemple pour les autres. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de prédicateurs. Vous savez, des fois, je vais sur Internet, je regarde un peu les prédicateurs, je dis, waouh, il y en a, hein? Il y a des calibres. Hein? Quand ils parlent, je dis, ouf! Mais il y a très peu de modèles. Il y a très peu de références, très peu d'exemples à suivre. Laissez-moi vous dire, vous qui êtes là en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que autour de vous, les gens peuvent vous prendre comme des modèles? En disant, non, quand je te regarde, je vois la manière dont tu vis, la manière dont tu gères ta maison, la manière dont tu travailles, la manière dont tu sers Dieu, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu pries, la manière dont tu es consacré à Dieu. Ça m'inspire. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'es pas encore un modèle. Et ce que Dieu veut, c'est que Paul dit à Timothée ici, sois un modèle. Regarde. Verset 12, regardez avec moi. 1 Timothée 4, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. C'est un ordre. Sois un modèle. Sois un exemple. Et un modèle, ça se voit. Ne sois pas comme ceux-là qui disent, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Non. Ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu dégages, c'est ce que tu communiques aux autres. Amen. J'ai souvent l'habitude de dire que la vie même de l'église, c'est le reflet du pasteur. Hein? Même s'il vient ici, il trompe tout le monde. Sanctifiez-vous, mais si lui-même dans le péché, vous allez voir, les gens vont vivre dans le péché. Les gens vont. C'est comme ça. Parce que c'est spirituel, ça se communique comme ça. Même si je viens vous tromper, ma vie va se transmettre. C'est pourquoi ici, c'est la sanctification. Alléluia. Être un modèle. Où sont les modèles aujourd'hui? Je prie le Seigneur pour que Dieu fasse de nous des chrétiens, des modèles, des vrais modèles pour cette génération, pour les jeunes qui viennent, pour tous ceux qui vont venir au Seigneur par la suite. Vous imaginez, on arrive comme ça et on voit le pasteur en crête, quoi. Il s'est coiffé en crête. Alléluia. Rababa Shandaraba. Jean déchiré comme ça. Excusez-moi si vous avez des jeans déchirés, mais j'aime pas trop ça. Jean déchiré, et puis on dit, bon, c'est la mode, quoi. Et tu dis, ah, yeah. Oh, Jésus est Seigneur, yeah. Mais, et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera comme ça. Pourquoi? Parce que ceux qui sont devant sont comme ça. Derrière toi, on a vu dimanche, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et si vous êtes des fils et des filles d'Abraham, derrière vous, il y a des nations. Il y a des gens que Dieu veut toucher. Ces gens-là n'auront pas seulement le pasteur comme modèle. Non, je ne suis pas en contact avec tout le monde. Vous êtes des disciples, vous êtes des témoins de Jésus partout où vous êtes. Alors si vous êtes un modèle, les gens vous regarderont et vont vous copier. Mais si vous êtes des mauvais modèles, si à l'église vous êtes saint d'or, vous êtes impudique, on dira, ah, donc dans votre église, c'est une église d'impudique. Donc tu fais honte à tout le monde parce que tu n'es pas un modèle. C'est la raison pour laquelle Paul insistait, sois un modèle. Et j'insiste sur ça, sois un modèle. Amen. Dis au moins amen. Gloire à Dieu. Sois un modèle. Dis à ton ami, sois un modèle. Dis-lui encore, sois un modèle. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Vous voyez aujourd'hui, Il y a des prédicateurs qui sont polygames. Faites ce que je dis. Voleurs, escrocs, faites ce que je dis. Il faut arrêter de prêcher. Parce qu'on ne prêche pas parce qu'on a la connaissance. On prêche parce qu'on veut avoir, on est un modèle. Est-ce que je suis clair? On ne prêche pas parce que tout le monde peut. Tu peux aujourd'hui aller à l'école, tu as la connaissance. Hein? Mais tu n'es pas un modèle. On n'a pas besoin de ça. Au temps de Jésus, il y avait des pharisiens. Ils connaissaient la loi. Mais ce n'étaient pas des modèles. Jésus les a appelés hypocrites, tombeaux blanchis, race de vipères. Soyons des modèles, soyons vrais.
Aïe, 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 aïe.
Hébreux. Hébreux 13, verset 7. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Imitez leur foi. Qui imites-tu? Tu imites qui? Hébreux 13, verset 7. Qui est-ce que tu imites? Qui est ton modèle? Moi, dans la Bible, j'ai des modèles. Quand je vois David, c'est vrai, pas certains traits de son caractère que je ne veux pas, je n'aimerais jamais avoir, mais dans l'ensemble, je vois ce guerrier. Je vois cet homme déterminé, j'aime. Quand je regarde Paul, quand je regarde, ce sont des modèles pour moi. Des gens qui ne servaient pas Dieu pour le matériel, qui avaient une autre vision des choses de Dieu et qui étaient prêts à tout sacrifier pour l'avancement du royaume. Ça, ce sont des modèles. Quand je lis l'histoire du réveil, les gens que Dieu a utilisés dans le réveil, ça m'inspire. Qui t'inspire? Tu ne peux pas être là et n'être inspiré par personne. Il y a des gens qui nous ont précédés. Et ils sont des modèles. Tu veux être comme qui? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, non? Alléluia. Toi, tu veux être comme qui? Tiens, Osborne. Tiens, Nadine, tu veux être comme qui? Hein? Heidi Baker. Toi, tu veux être comme qui? Rena Bonke. Wow. Karine, tu veux être comme qui? Comme Chris. Tracy, tu veux être comme qui? Les sœurs, c'est comme Christ. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Modèle. Dis à ton ami, sois un bon modèle. Vous savez, la vie chrétienne, ça se vit pas à l'église. Ici, on apprend. On vient en communion, on apprend, on se fortifie, on s'encourage. Mais c'est dehors. Très souvent, les gens ne viennent pas au Seigneur à cause de nous. Et disent, si c'est ça de chrétien, toi là, tu es chrétien. Arrête. Arrête. Ça veut dire que tu n'es pas un modèle, tu es une pierre d'achoffement. Mieux vaut falloir pour toi, comme je dis, qu'on mette une meule autour de ton cou. Objet de scandale. Tu as enlevé la clé de la science, tu empêches les gens qui veulent entrer. Et les gens veulent entrer et disent, je ne veux pas citer un nom ici, il y a tel. Non, je ne viens pas. Non, il faut inspirer. Alléluia. Inspirer. Et je dis même le bon témoignage, une bonne manière d'évangéliser, c'est ça aussi. Par sa vie, tu es une lettre. Laisse les gens te lire. Laisse les gens voir ce qui te dégage de toi. Pas trop parler. Vous savez, moi, j'ai l'onction. Comprenez-moi, moi, je prie 10 heures. Hein? Attention, je ne suis pas n'importe qui. Je prie 10 heures. Ça ne nous impressionne pas prier 10 heures. Tu pries 10 heures, mais tu es impoli. L'onction ne te change pas. Alléluia. S'il y a des gens qui sont ouais, mais impolis, je dis souvent ça. Parce qu'on voit ça. Dieu m'a parlé. Le matin, Dieu m'a parlé. À midi, Dieu m'a parlé. Et lui, il dort au ciel, quoi. Mais quand on te regarde entre Dieu m'a parlé, ton caractère, dit, ah, monstre, tu n'es pas un modèle. Soyons des modèles, frère. Si aujourd'hui, le diable arrive à scandaliser beaucoup, c'est parce que beaucoup de chrétiens, des prédicateurs ne sont pas des modèles. Regardez Internet, vous allez voir que la saleté manque de modèles. Que ça ne soit pas ton cas. Amen. Que cela ne soit pas mon cas. Autre chose, cinquième point. il faut apprendre. Si on veut faire des progrès, il faut apprendre. Ayons l'esprit. Hein, soyons enseignables. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont déjà trop appris. Et tu n'as plus rien à les enseigner. Il y en a même, oh non, moi le Saint-Esprit m'enseigne. Oh moi c'est l'Esprit. Oh, c'est l'Esprit. Alléluia. Ils vont prendre 1 Jean 2 et puis ils déforment ça. La Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Vous n'aurez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais c'est le même Saint-Esprit qui a établi le ministère. Il se contredit alors. Paul dit, veillez sur tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Donc il y a des gens qui sont établis sur vous, qui doivent vous enseigner. Amen. Être enseignable. Ne jamais cesser d'apprendre. Et il y a le concours de 5 ministères dans l'Église pour le perfectionnement des saints. On a besoin des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. On a besoin des apôtres. Toi-même, tu dois apprendre aussi. Apprendre à te cultiver, à lire déjà la Bible. Toi, quand tu ouvres la Bible, tu dors. Ah, je ne comprends pas. Tu peux être bien, mais quand il faut lire la Bible, il y a peut-être un esprit qu'il faut chasser. Ce n'est pas un esprit à chasser, c'est une discipline personnelle. Amen. 1 Timothée 4, 13 et 2 Timothée 4, 13. Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Tu dois t'appliquer. Aime lire la Bible. Aime lire les écrits. Même d'autres livres chrétiens ou qui parlent de ton domaine. Si tu es dans un autre domaine, cultive-toi, apprends, découvre. Ce que nous connaissons, c'est une goutte d'eau. Ce que nous ignorons, c'est tout un océan. Personne n'a le monopole de la connaissance, de la science. Paul dira même, nous connaissons en partie. Il y a des gens qui prétendent connaître tout. Et même la Bible dit qu'ils ont maîtrisé. Moi, je ne crois pas à ça. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée 4. Regardez ce que Paul dit. Oh Seigneur, aide-nous. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troie, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Les livres. Un chrétien doit avoir toujours un livre qu'il lit. J'insiste souvent sur ça parce que je connais surtout dans la culture un peu noire, excusez-moi de le dire, africain, antillais, on n'aime pas lire. Ce qu'on aime, c'est la musique. Tu vois les gens, regarde dans le métro, les noirs ont toujours des écouteurs et la tête bouge. Le blanc, lui, il a un journal, il lit. Il a un petit livre, il lit. Mais toi, tu es comme ça. Dis à ton ami, tu dois être délivré au nom de Jésus. Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Gloire à Dieu, hein? C'est anormal. La dernière fois que tu as lu un livre, ça remonte à quand? Et quand toi, tu lis, c'est juste 2 premières pages. Et puis, ça te fatigue tellement que tu n'as pas envie. Quelqu'un m'a dit, si tu veux cacher quelque chose à un noir, écris-le dans un livre. Il a un trésor en dessous de sa maison, mais il n'a jamais pris le temps de lire. Amen. La Bible dit, avec tout ce que tu possèdes, acquiers la science. Investissez dans les livres. Ayez des bibliothèques au lieu d'avoir des garde-robes remplis. Il n'y a pas d'amen là. Je ne sais pas si je touche les points sensibles, je ne sais pas. Hein? Amen. Toi, c'est la collection. J'ai un petit frère à moi. Si vous allez dans la chambre, collection de baskets. Ah, mais tu peux pleurer. Nike, Jordan, toutes les couleurs. Et pas de livre. Le gars, il ne lit pas. Donc lui, il se plaît. Bon, écoutez, on va sortir un peu. Puis bon. Et tu veux faire des progrès? Et tu veux réussir, tu veux aller de l'avant? Tu veux impacter ta génération? Non. Amen. Discipline-toi. Apprends. Même quand tu n'as pas envie de lire, lis quand même. C'est pourquoi à un moment donné, je donnais des devoirs ici, devoirs à domicile. Quelqu'un m'a dit, ben oui, la personne est partie. Il dit, ben oui, mais on n'a pas vu ça dans la Bible. Nous, les apôtres donnaient des devoirs. Il n'y a pas ça dans la Bible, mais ici, il y a ça à cette résurrection. Vous allez apprendre à lire. Tu es leader et tu ne lis pas. Tu seras un leader nain. Et ceux que tu encadres sont plus que toi. Et parce qu'ils auront la connaissance plus que toi, tu vas penser qu'ils sont en train de te combattre. C'est pourtant toi qui ne grandis pas. Vous savez, un parent qui ne grandit pas, il peut combattre ses enfants qui grandissent. Hein, qui grandissent. Parce que les enfants ont trop la connaissance et les parents, ben, oh, écoute, c'est les béabas. Non. Moi, je refuse ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quelques personnes, je rencontre, on a même un ami, un frère qui est là, un pasteur que je vais présenter tout à l'heure. Il y a des ministères, des fois, quand ils me rencontrent, ils ont l'impression que j'ai fait une école théologique, une école biblique. Je n'ai pas fait. Je ne suis pas contre ça. Mais je ne l'ai pas fait, l'école. Mais j'apprends. Et tu ne peux pas me blaguer en ce qui concerne la doctrine. Ah, ça, je te dis, tu ne peux pas. Histoire de l'église, encore moins. On travaille, ça se travaille. Alléluia. On se lève un matin comme ça. Je suis apôtre international. Il y a des apôtres aujourd'hui, quand vous leur posez même la question. La Bible a combien de livres? La Bible, ça a combien de livres, la Bible? Ça combien de livres, la Bible? 66. Vous connaissez? Maintenant, il y en a. Alléluia. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ne pensez pas que le Saint-Esprit est venu toujours vous tout vous donner. Non. Vous devez travailler. Si le Saint-Esprit, Dieu a pu parler à Daniel, c'est parce que Daniel lisait les écrits de Jérémie. Et il a su que le temps était arrivé pour la fin de la captivité. Et il s'est mis à jeûner, à prier. Mais tu ne le lis pas. Et les promesses sont devant toi et tu passes à côté parce que tu ne le lis pas. Apprends. J'insiste là-dessus. On ne peut pas faire des progrès si on n'apprend pas. Changeons nos cultures, changeons nos coutumes. Au lieu de regarder la télé, regardez toutes les informations. Éteignez vos télés là. Ça ne vous apporte rien. Amen. Qu'est-ce qu'il raconte cet homme? Eh bien, il dit ce qu'il dit. Sixième chose. Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Sixième chose importante pour faire des progrès, c'est de ne pas négliger le don ou encore les talents que Dieu t'a donné. Autant que nous sommes, nous avons des talents. Merci pour ce que le chewing-gum mettait de côté. Vous allez reprendre après, merci. Nous avons des talents. Nous avons des dons que Dieu nous a donnés. Mais très souvent, nous les négligeons. On ne travaille pas ces dons. On ne les utilise pas. Et ça meurt. On nous a parlé ici par l'apôtre Peter des richesses que Dieu nous a données. Mais si vous ne les mettez pas en pratique, vous ne les exploitez pas, mais vous allez mourir pauvre. Mais Dieu vous a déjà béni, il vous a enrichi. Tel que vous me voyez là, je ne peux rien faire d'autre qui puisse marcher à part le ministère. J'ai essayé, ça ne marche pas. Tu vois même dans une boîte comme ça, la boîte a des problèmes à cause de toi. Tu deviens le Jonas jusqu'à ce qu'on te vire. Est-ce que je peux me faire comprendre? C'est ta voix, donc si tu veux... Picle comme on dit là, tu es. Et toi et la barque, vous coulez. Mais une fois que tu découvres ton don, ton appel, qu'est-ce que tu fais? Travaille! Alléluia! Et j'entends des fois, il y en a qui disent, mais oui, mais parce que tu aimes trop voyager. Mais c'est mon travail! Je vais venir attendre le mardi et puis attendre dimanche, attendre comme ça. Mais oh, vous blaguez. Il y a des âmes à sauver. Si je dois aller en Belgique, j'y vais. Je vais là-bas. C'est mon travail parce qu'il faut que les âmes soient sauvées. Alléluia. Tu dois connaître ton don. Quel est ton don? Dieu t'a donné un don pour guérir les malades. Tu attends quoi? Que le pasteur te dise qu'il y a un malade là-bas? Prie que Dieu mette les malades sur ta route, qu'on t'appelle. Il faut imposer les mains. Tu n'as pas besoin d'une autorisation pastorale pour aller imposer les mains. Toi, tu attends qu'on te donne l'autorisation. T'aides, pasteur, est-ce que je peux aller imposer les mains à quelqu'un à l'hôpital, s'il vous plaît? Tu es enfant de Dieu, tu reçois la parole, tu grandis, les dons sont en toi, l'esprit est en toi. Vas-y, exerce ta foi, prie. Et ne réfléchis pas si ça ne marche pas. Et prie, toi, impose la main. Le reste, ce n'est pas ton problème. Si ça ne marche pas, on dira que... Non, ça, ce n'est pas le langage de la foi. Je pose. Amen ou pas, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Néglige pas le don. Ne néglige pas le don. Voilà comment l'Église ne grandit pas à la vitesse que Dieu veut. Parce que tu as le don pour gagner les âmes et tu ne le fais pas. Pour toi, c'est le pasteur qui doit aller. Non. Nous sommes tous des pécheurs d'hommes. Tu dois avoir un fardeau. Cette semaine, je dois gagner 2 âmes. Je dois gagner 5 âmes. Ça doit être un fardeau quotidien. Et imaginez si tout le monde le fait. Vous pensez vraiment que cette petite salle-là, en 2 mois, mais ça explose. On néglige les dons. On le néglige. Une étude a montré que c'est souvent les jeunes convertis, ceux qui ont moins de 2 ans de conversion, qui gagnent les âmes. Parce qu'à un moment donné, il y a un confort chrétien qui s'installe. On devient juste un chrétien des dimanches. Oh, c'était magnifique le culte. On a prêché sur quoi? Les 10 choses qui permettent de croire. Oh, c'était... Oh, j'ai reçu ma part. Et qu'est-ce qu'on fait? Rien. Alléluia. C'est la vérité que je dis. Tu ne peux pas progresser tant que tu n'es pas dans la ligne de l'appel que Dieu t'a donné. Tant que tu n'exploites pas le ministère, le don que Dieu t'a donné. Vous savez comment ça marche dans le ministère? Une porte, on ouvre une autre. Je vous dis, une porte. On m'invite là-bas, il faut prier pour un malade. Tout ce que je fais, c'est de me déplacer. Seigneur, accompagne-moi, je pars. Pendant que je vais là-bas, je prie. Je discute avec la personne. D'ailleurs, j'ai ma tante à moi, elle habite de l'autre côté. Elle aussi, est-ce que tu ne peux pas aller? Je vais là-bas. Et vous voyez tous les jours l'église remplie. Mais le pasteur, il travaille. Mais toi, tu fais quoi? Je prie pour un cas. La personne est satisfaite. Elle est délivrée. Combien de cas de délivrance on a ici? Personne n'est délivré. Ah non, j'ai aussi un ami à moi. On l'appelle. Rendez-vous. Mais c'est comme ça. Je travaille. Il faut que tu travailles. Le don que tu as reçu, mets-le au service. Alléluia. Autre chose. D'ailleurs, vous noterez par rapport au don, Colossiens 4, verset 17, où Paul dit à Archip de prendre garde au ministère qu'il a reçu afin de bien le remplir. Colossiens 4, verset 17. Prends garde au ministère que tu as reçu. Tel que vous êtes, vous avez tous un ministère. Certes, vous n'avez pas le ministère d'Éphésiens 4. Ou les apôtres, prophètes, tout le monde n'est pas appelé à ça. Mais au moins, nous avons tous un ministère de la part de Dieu. Mettons ça au service. Sois révolté avec toi-même aujourd'hui. Dis, ça ne peut plus continuer comme ça. Amen. Septième chose. Oh my God. Se focaliser sur un seul domaine. Se focaliser sur un seul domaine. Regardez ce que Paul dit au verset 15. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. Je m'arrête d'abord. Occupe-toi de ces choses. Focalise-toi sur ton appel, sur ton travail. Il y a des personnes, ils veulent être à la fois évangélistes, à la fois pasteurs, à la fois docteurs, à la fois apôtres. Tout le ministère, c'est lui. Et réussir pleinement. Le pasteur, il est à la prédication. Le pasteur, il est au protocole. Le pasteur, il est à l'accueil. Le pasteur, il est omniprésent. Et vous pensez qu'il va faire des progrès? Une fois que tu identifies la ligne de ton appel, occupe-toi. Quand j'ai discerné l'appel de Dieu dans ma vie, bien sûr, j'ai été aidé. J'ai commencé à me focaliser sur cela. À travailler au niveau de la parole. À prier. À jeûner. Est-ce que vous jeûnez même pour votre ministère? Nous avons à l'église juste le jour de jeudi où c'est le jeûne. Encore, il faut vérifier si tout le monde jeûne. Parce que c'est le jeudi où, voilà. Alléluia. Vous rigolez, j'ai l'impression que vous ne jeûnez pas. Qui sont ceux qui jeûnent, qui ne jeûnent pas les jeudis? On est en famille. Hein? Qui sont ceux qui jeûnent? Enfin, je vais dire plutôt, qui sont ceux qui jeûnent tous les jeudis? Tous les jeudis, ils ne ratent pas. Ok. Les jeudis, on saute, quoi. Ok, ça, c'est le jeûne de l'église. Quoique, je crois que je vais enseigner sur le jeûne, parce que j'ai l'impression qu'on a trop pris du poids. On va jeûner un peu. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Hein? Gloire à Dieu. Mais où on va attendre janvier prochain pour jeûner un mois. Ce n'est pas grave. Mais toi-même, dans le cadre de ton appel, est-ce que tu as le temps de jeûner? De prier pour ton appel? De prier pour ton ministère? Tu dois prendre ce temps. Seigneur, je sens que dans mon cœur, que tu m'appelles à tel ministère. Même si ça ne va pas exploser aujourd'hui. Mais tu as déjà une prophétie, tu as une conviction intérieure. Mais tu peux déjà commencer à le travailler. N'attends pas qu'on te reconnaisse ici, prophète, pasteur, pour commencer. Non, travaille déjà petit à petit et cela va grandir. La Bible dit qu'en parlant de Jean-Baptiste, il grandit, il croissait. L'enfant croissait dans les déserts. C'est dans le moment comme ça, désertique, de sécheresse, de souffrance, que Dieu permet que tu puisses grandir spirituellement. Vous suivez, hein? Alléluia! Combien j'entends chez les jeunes? Pasteur, moi j'ai un ministère. Quelqu'un m'a dit un jour, pas ici, ailleurs, moi j'ai un grand ministère, mais quand tu le regardes parler, tu dis, grand ministère, mais il n'y a rien encore là. Peut-être que tu as une prophétie, tu as un grand ministère. Mais commence à travailler. Mémorise déjà au moins 1000 versets pendant 3 mois. Travaille. Apprends la Bible. Cherche Dieu. Moi, je ne vous dirai pas le nombre de jeûnes que j'ai fait au début, avant même d'être commencé dans le ministère. Une fois, je me rappelle, j'ai fait un jeûne de 40 jours. Et Dieu m'a délivré le 35e jour seul. Il y avait encore des petits liens qui étaient là. J'ai été délivré ce mois. En 2007, je fais un jeûne d'un an, une année. Une année de jeûne, frère, en 2007. De janvier en décembre. Et vous pensez que tu vas aller comme ça dans les nations, chasser les démons dans les nations. Vous ne connaissez pas le diable. Hein? Ce n'est pas votre ami. Hein? Il vous attend au tournant. Et tu attaques, mais il y a aussi une contre-attaque. Si tu n'es pas armé, si tu n'es pas bâti, frère, tu tombes. Voilà comment il y en a, ils ont tombé. Ils n'arrivent pas à se relever. Mais Dieu prend le temps de te préparer parce qu'il sait que demain, tu vas affronter des coups. Le ministère, ce n'est pas la joie. C'est le coup aussi où tu reçois des coups, des blessures, des déceptions. Des gens que tu aimes, ils te déçoivent, ils te poignardent. Mais Dieu te dit pardonne et aime-les. Comment tu fais si tu n'as pas été préparé? Si tu n'as pas été brisé? Parce que le ministère, c'est quand tu es mardi, ici, dimanche, tu parles. Vraiment, c'était fort, il a l'onction. Hein? C'est comme le jeune ministère. Il faut qu'on aille doucement. Ce n'est pas ça. C'est au prix des brisements, des larmes aux yeux. Ça, c'est le ministère. Ce n'est pas la prédication, mais c'est le ministère. Lisez Paul. Mais si tu ne prends pas le temps de t'occuper de ces choses, très tôt, je savais que dans le ministère, il y avait des épines. Il y avait des souffrances, des difficultés. Qu'il ne fallait jamais abandonner. Une des leçons que j'ai apprises, ne jamais abandonner. Quand même, tout le monde te trahit. On n'avait que ça. On tient jusqu'à aujourd'hui. Et on continue à tenir, à avancer. Amen. Focalise-toi. Actes chapitre 6, versets 1 à 3, vous lirez. La Bible dit que, alors qu'on faisait les partages, il y a eu un conflit qui a surgi à l'église de Jérusalem. Pierre va dire, choisissez des diacres, des gens remplis de l'esprit. Nous, nous allons nous occuper à la prière et au ministère de la parole. Actes 6, 1 jusqu'à 5, par là. Actes 6, 1 à 5. Tu dois te focaliser. Moi, plus ça va, plus Dieu me dit de passer beaucoup de temps dans la prière même. C'est un coup de fil de ne même pas répondre, de ne même pas le faire, parce qu'il faut prier. Quand Dieu vous donne un ordre comme ça, il sait où est-ce qu'il veut vous amener. Et il faut obéir. Amen. Focalise-toi. Travaille. Je passe des nuits blanches. Ma femme est là, elle peut vous dire. Je passe des nuits blanches. Quand elle dit, ah, vraiment, on est béni. Quand aujourd'hui, le message est en train de traverser les quatre continents où les coups de fil viennent, les mails viennent. Nous sommes bénis, nous sommes délivrés. Eh bien, c'est au prix des sacrifices. Rien que pour travailler, méditer, faire des recherches. Alléluia. Alléluia. Je ne crois pas à quelqu'un qui va s'appuyer sur ses acquis. Je connais, c'est bon. Non. J'estime que j'ai beaucoup à apprendre. Et la course, le grand travail est devant moi. Amen. Huitième chose. Et Paul dit à Timothée. C'est huitième, hein? Il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier, se donner entièrement, la dévotion, dévoue-toi. Huitième. C'est huit, non? Ah, tu as décroché à un moment donné alors. Huitième point. Être motivé. Je parle de la motivation. Tu ne peux pas faire des progrès si tu as toujours besoin de quelqu'un qui doit être là pour dire, ah, il faut venir prier, il faut. Non, il y a un moment où tu dois laisser ces béquilles toi-même, motive-toi toi-même. Alléluia. Alléluia. Non, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Vous savez, quand vous aimez quelque chose, qui aime quelque chose, quand vous aimez quelque chose, peut-être pas vous, mais moi, quand j'aime quelque chose, je me donne les moyens. Je vous assure, je me donne les moyens. Et je ne peux pas comprendre qu'un chrétien aime les choses de Dieu, il ne se donne pas les moyens. Il faut être derrière eux pour dire non, il faut venir à la prière. Non, il y a un moment on le fait, mais après on ne le fait plus. Quand on est bébé spirituel, oui. Mais à un moment donné, j'estime qu'il faut grandir. Assez de caprices. Tu dois savoir ce que tu veux. Amen ou pas amen? Alléluia. On doit te supplier pour faire le... Ah non! Non! Tu dois te donner tout entièrement. Christ a fait tellement pour moi. Je ne sais pas comment le remercier. Ce n'est pas ma dîme ou mon offrande qui va faire que Dieu soit content. Non, je dis ça, c'est rien. Même si je lui donnais tout mon salaire, c'est rien. Ce qui peut être agréable à Dieu, c'est ma personne. Lorsque je m'offre à lui. C'est pourquoi je me considère comme un sacrifié, comme quelqu'un de mort. Je ne vis plus, je ne vis pas. Je vis pour Christ. Christ est ma vie. Quand Paul pouvait le dire, il est ma vie. Il y a des choses, ça ne m'intéresse pas. Vous ne me verrez pas. Oh, ma femme, elle peut me témoigner. Vous ne me verrez pas m'intéresser aux choses telles qu'aller dans les anniversaires, les fêtes, au détriment de l'œuvre de Dieu. Jamais. J'ai dit bien jamais. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Ça, c'est mon prix à payer. Quand je vois les chrétiens, j'étais à l'anniversaire, j'étais fatigué, je n'ai pas venu au culte. Et tu es ouvrier. Tu n'es pas ouvrier. Tu es encore au stade des anniversaires. Anniversaire en plus de qui? Ta nièce, petite de 6 ans. Et tu manques à la prière le dimanche. Je sais qui je suis. I know who I am, tu danses. Tu ne sais pas ce que tu es. Au lieu d'influencer le monde, c'est le monde qui t'a influencé. Alléluia. Alléluia.
Non, l'engagement. Lorsqu'on est chrétien, on est engagé. Je suis engagé. La Bible dit que si quelqu'un met la main à la charrue et qu'il regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume des cieux. Non, tu n'es pas propre au royaume des cieux. Tu perds ton temps. Tu dois être un soldat. Un soldat au garde à vous. On dit, il est l'heure de combattre. On est au poste. Que je dorme une heure, que je dorme cinq heures, je suis au poste. Petite migraine, maux de tête. Des fois, c'est une attaque démoniaque. Parce que moi, j'ai une migraine, je ne viens pas. Tu ne comprends pas l'enjeu du combat spirituel. Et tu veux être un ministre ouin. Mets ton ministère dans la poche. Moi, quand je vois ça, je dis, toi, dans ma tête, toi, tu n'iras jamais loin jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Vous ne connaissez pas le ministère? Le diable, avant de prêcher, il peut te donner une diarrhée. Hein? Une diarrhée. Hey, je vais arriver. Maintenant, si c'est tu te programmer. Nathanaël, c'est toi qui vas prêcher. Pasteur, j'ai la diarrhée. Je ne viens pas. Non, tu n'es pas prêt. Il faut dire, je viens. Dieu me guérira. Voilà un guerrier. Je sais que pendant que je monte ici, je crois à la puissance de Dieu capable de me guérir, de me restaurer et de faire de moi un canal de bénédiction pour les autres. Les chrétiens ne sont pas engagés. Moindre petit problème. Oh. Regarde ton voisin, dit arrête ça. Non, tu ne l'as pas bien dit. Dis-lui arrête ces caprices-là. Arrête. Amen. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si je choque quelqu'un. Pardonnez-moi si je vous ai choqué, mais c'est la vérité. Hein? Huitième point. À neuvième, merci. Neuvième point. Vous avez noté aussi. Dans le huitième point, Philippiens 2, 13, Colossiens 3, 23. Philippiens 2, 13, Colossiens 3, 23. Neuvième point, la vigilance. Il dit, veille sur toi-même. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Comme il devait enseigner, il devait veiller d'abord sur lui-même. Ça, c'est le premier travail d'un ministre de Dieu. Avant de veiller sur vous, je dois veiller sur moi-même. Sur ma qualité, la qualité de ma relation avec Dieu. Amen. Parce que quelquefois, on peut rentrer dans une forme de routine, d'activisme. Ne devenons pas de Marthe qui cherche à servir. Soyons des Marie au pied du maître. Alléluia. Notre force se puise là, au pied du maître. Dans la prière, dans la soumission à Dieu, dans l'obéissance. La vigilance. Soyez vigilants. Veillez sur vos faiblesses. Faites en sorte que vos faiblesses deviennent vos forces. Tel que nous avons tous des faiblesses. Moi, le premier. Mais je dois travailler mes faiblesses. Tu ne dois pas, le même péché ne doit pas toujours te faire tomber. Tu ne dois pas toujours te retrouver dans la même faiblesse. Même au niveau caractériel. Toujours le même caractère, 10 ans. Non, ça doit changer. Tu dis, ah ça, je me connais. Moi, je suis comme ça. Alors, par rapport à ma nature, je laisse Dieu me travailler de ce côté-là. C'est ça, être vigilant. Veille sur toi-même. Et pour veiller sur soi-même, il faut aussi veiller sur ses fréquentations. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Qui sont tes amis? Qui sont les personnes qui t'entourent? Tu es entouré de qui? Les mauvaises compagnies. Amen. Plus le temps passe, plus je me rends compte que plus tu vis avec les mauvaises personnes, tu vas commencer à adopter leurs attitudes, leur manière de faire, leur caractère. Donc il faut que la séparation soit nette. Il faut faire un choix. Amen. Ça, c'est très important, chrétien. Pourquoi on échoue souvent? C'est parce qu'on est mal entouré. Moi, quand tu m'entoures, et tout le temps, tu as toujours un discours négatif, négatif, tu parles toujours mal des autres, tu ne peux pas m'approcher. Je n'ai pas besoin de ça. On a besoin de s'édifier. Faites attention à ceux qui critiquent tout le monde. Parce que si on critique tout le monde devant toi, ça veut dire qu'aussi on te critique sans toi, quand tu n'es pas là. Ah, tu es, toi, tu es vraiment mon ami, mais tout le monde n'est pas bien. Charlotte n'est pas bien. Isabelle n'est pas bien. Tout le monde est mauvais sauf toi. Non, toi, vraiment, tu es. Toi. Mais quand tu vas tourner le dos, sache que toi aussi, on casse le sucre sur son dos. C'est comme ça. C'est ça la règle générale. Alors, on n'accepte pas. Tu parles de Charlotte. Tu sais ce qu'il faut faire? Ok. Je viens, je te parle. Non, Junior, tu vois, Junior. Ok. Tu dis, ok, ça c'est bien. Calme-toi un peu. Viens. On va aller. Alors, viens, on vient maintenant chez Junior. Bon, tu peux me répéter ce que tu me disais tout à l'heure? Devant lui. Vous allez voir. Il sera délivré sur le champ. Le démon là va partir. Merci. Délivrance. Alléluia. Et quelqu'un a dit, il y a des gens qui disent des choses sur toi, mais à tout le monde sauf à toi. Tu as vu que j'ai un défaut, mais viens me voir. Frère, tu as un défaut. Toi, ton défaut, c'est ça. Et tu me regardes dans les yeux. Ça, tu es un courageux. Toi, la vérité, tu dis, c'est pas tout le monde, pas aux concernés. Faut le concerner et parle de tout le monde. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Il faut qu'on soit délivré. Le but de ces enseignements, c'est ça. Que nous soyons des modèles. Sinon, on ne va pas avancer. On fait deux pas, on fait trois à l'arrière. Non! Soyons vigilants. Veille sur ton comportement. Veille sur ton langage. La manière dont tu parles. Veille sur ton habillement. Oh, je vais commencer à parler d'habillement. Il commence à faire chaud. Oula! Je sais qu'ici, on se discipline. D'une manière générale, la culture de la maison, il y a une bonne discipline. Mais attention, parce qu'il y en a, ils disent, comme on n'en parle pas, donc on peut profiter. Non, on va vous panier. Vous connaissez le verbe panier? On va vous mettre un panne. Il y a quelqu'un qui est venu dimanche, elle enlève tout, on lui dit, écoute, mais je dis, il faut lui dire là, attention, elle a remis tout de suite quand elle a vu qu'on est venu me voir. Frère, on n'essaye pas. On n'essaye pas. Ton dos là, tu n'es pas une voiture décapotable pour qu'on voit ton dos. Habille-toi. Alléluia. Pas de ventre à l'air, pas de voilà quoi. Pour que les frères, quand ils adorent comme ça, ils regardent à côté. Alléluia. Alléluia. On connaît les histoires dans l'église, et puis quand ça rentre, puis des petits serpents, non! Discipline. Dis à ton voisin, habillement. Discipline même dans l'habillement. Non, il ne t'a pas entendu, dis-lui, discipline dans l'habillement. Mm-hmm. Alléluia! Ah, là, on rigole, hein? On cache les formes, on n'a pas besoin de voir les formes, on n'a pas besoin de voir, non! Oui, tu peux me prendre en photo. Discipline dans l'habillement, Ted. Dis celui-là. Alléluia. Non, parce que ce qu'on voit dans les églises ici, ça m'écœure. À la chorale, machin. Non, non, non. Ça ne passe pas. Sinon, tu es acide, sous discipline. Parce qu'apparemment aussi dans les églises, on ne met pas les gens sous discipline. C'est pourquoi il y en a, ils profitent. Dis à ton voisin, ici, il y a sous discipline. Il y en a. Il y en a, ils sont sous-disciplines, mais vous ne savez pas, on les cache. Mais ils sont sous-disciplines, ils ne servent pas. Ils sont assis. Sous-discipline, ça marche. Alléluia. Tu ne vas pas fouiller les guides, tu vas aller où? Tu vas, si tu vas, je vais te chercher. Dieu ne t'a pas dit de partir? Tu vas aller où? Alléluia. Tu vas revenir, le bon berger vient te chercher, ça va? Tu as besoin d'amour, je te donne l'amour, mais il n'y a pas de problème. Tu reviens, mais tu es sous-discipline. Quand on voit que tu chantes, tu dis, bon là, tu as compris la leçon. Allez, sers Dieu. Sinon, si la première génération en est sous, la deuxième génération va réussir. Vous êtes censé être des modèles. Alléluia. Je peux continuer? Je finis d'ailleurs. Vigilance. Connais-toi toi-même. Dernier point que Paul évoque ici. Il dit... Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Dernier point, la persévérance. La persévérance. Tu vas aller loin dans les choses de Dieu. C'est vrai qu'il y a, il peut y avoir des moments de haut, de bas, des difficultés, mais apprends à persévérer. Même quand tu as échoué, même quand tu es tombé, même si tu es tombé dans le péché, on ne va pas te rejeter. Alléluia. Et je suis d'ailleurs contre les personnes qui accusent les gens qui tombent. Parce que c'est comme si tu es debout par ta force. Donc, quelqu'un est tombé. Avec amour, on l'aide à se relever et à continuer la course. Alléluia. La persévérance. Tous les grands hommes de Dieu que vous voyez, les femmes de Dieu d'aujourd'hui, ils ont eu des moments de faiblesse dans leur vie. Il y en a même au début de leur vie, c'était des grands tombeurs. Mais Dieu les a aidés. Alors pourquoi ne pas aider les autres? Parce que des fois, quand on a un certain standing dans la foi, on pense qu'on est exempt, on est exempté, qu'on est au paroxysme de la spiritualité. Donc les autres sont des... Hein, tu commences à regarder mal les gens. Non, lui, c'est des pécheurs, c'est des pécheresses. Non. Alléluia. La persévérance. Dis à ton ami, tu as besoin de la persévérance. Ne baisse pas les bras. Quand même c'est difficile, ne baisse pas les bras. Sois fort, sois debout. Avec la persévérance, le temps va passer. Et le temps, c'est un facteur de qualification. Dieu va nous qualifier. La Bible dit que si tu persévères dans ces choses, alors tes progrès seront évidents. Quelquefois, tu peux essayer de marcher aujourd'hui, ça ne marche pas. Demain, tu essaies, ça ne marche pas. Mais cela ne veut pas dire qu'à long terme, ça ne va pas marcher. Sache que si tu persévères, ça marchera. La plupart des gens qui réussissent aujourd'hui ont connu aussi des échecs hier. La vie d'échec, échouer en réalité, c'est rester là où tu es tombé. C'est ça l'échec. Mais la réussite, c'est lorsque même tu as échoué, lorsque même tu es tombé, tu prends le courage de te relever et de continuer la course. Alléluia. Nous voulons faire des progrès. Nous voulons avancer. Le progrès, ce n'est pas tant dans le numérique. Ça, c'est bien. Mais si la qualité n'est pas bonne, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine d'avoir une église remplie, mais des pécheurs. Non, on veut une église remplie, mais des disciples de Jésus, des amoureux de Jésus, des gens qui ressemblent au Seigneur, qui sont un témoignage pour nous. Ça, c'est la vision que Dieu veut que nous puissions avoir. Qui démontre que nous avons une vie de ressuscité. Autrement dit, on passera à côté. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Baissons nos têtes, nous allons prier. Chacun va prier pour lui-même. Tu vas dire à Dieu de t'aider avec ce qui a été dit. Tu vas lui dire, Seigneur, je veux avoir des progrès. Aide-moi à mettre en pratique cette parole. Aide-moi par ton esprit. Et levons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, notre roi, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Pour ta parole, nous te bénissons, Seigneur, pour ton esprit. Seigneur, aide-moi. Je prie, Seigneur, que tu puisses m'aider. Aider, Seigneur, chacun de mes frères, chacune de mes sœurs ici présentes. Seigneur, mon Dieu, à mettre ces choses en pratique. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être des bébés. Seigneur, nous refusons ce stade où nous sommes de bébés. Mais nous voulons, Père, ô Dieu de louange, être des hommes et des femmes qui font des progrès, Seigneur, dans la foi, dans la marche chrétienne. Seigneur, qui refuse, oh mon Dieu, mon roi, la distraction. Seigneur, qui refuse de gaspiller les choses que tu nous donnes. Seigneur, des personnes qui s'exercent à la piété, à une vue de moralité, de sainteté, de sanctification. Seigneur, nous voulons être ces personnes, mon Dieu, mon roi, alléluia, qui travaillent, oh Dieu de louange, être des personnes, Père, alléluia, oh, qui sont persévérants au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, fais de moi un modèle, mon Dieu. Seigneur, je veux davantage apprendre, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas négliger les dons que tu m'as donnés. Seigneur, que tu nous as donnés. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, Père de louange, d'aller de l'avant. Donne-nous, Seigneur, de faire des progrès évidents. Car
part avec Dieu, nous ferons des exploits. Aide mon frère, aide ma sœur. Père, dans le nom de Jésus, que tout ce qui vient pour faire obstacle soit écarté de nous, soit éloigné de nous, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ces enseignements. Qu'elles soient gravées dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Et nous disons Amen.